J'ai parfois ressenti une frustration ouverte ou cachée de certaines personnes du fait que je m'adresse aux femmes et quelques problématiques typiquement féminines. Et comme on m'a posé la question récemment, pourquoi les femmes et pas les hommes ou tout simplement rester neutre, j'ai décidé de faire un court épisode pour répondre à ça suite à mes réflexions. Bienvenue dans Hypnoconscience. Hypnoconscience, c'est pour les personnes qui veulent se développer, s'épanouir, mais surtout qui sont prêtes à faire ce qu'il faut pour y arriver et qui se responsabilisent. Si tu te victimises ou que tu attends un sauveur, malheureusement, t'es pas à la bonne place. Salut à toi, bienvenue dans cet autre épisode de Hypnoconscience, un petit peu plus léger aujourd'hui, un petit peu plus court où j'ai simplement décidé d'expliquer mes réflexions suite à certaines questions que des gens m'ont posées, mais aussi à certaines réactions sur les réseaux sociaux qui m'ont amené à réfléchir. Au départ, parce que je vais te parler pourquoi je m'adresse surtout aux femmes, mais au départ, je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'est ça que j'allais faire. Mon idée était d'accompagner tout le monde, et même surtout les hommes, puisque je suis moi-même un homme. Le clivage s'est fait naturellement, sans que je comprenne trop pourquoi au départ. Par la suite, j'ai commencé à recevoir certaines critiques, d'abord et surtout sur TikTok. Et particulièrement lorsque je parlais de problématiques de l'appareil génital féminin, c'est fou comment je générais chez certaines femmes de la frustration, de la haine. J'avais des commentaires de mépris, on me traitait de toutes sortes de noms. Puis là, je comprenais pas, c'est donc bien agressif, ça dérange. Ensuite de ça, j'ai eu une cliente qui m'a dit « Écoute Pascal, je t'ai entendu parler de ça et je t'avoue que ça m'a dérangé. » Elle dit « C'est comme si en dedans de moi, je me disais, il se prend pour qui? Il n'est pas légitime de parler de ça. » Puis elle dit « Maintenant que je t'ai rencontré, je comprends, tu sais, c'est correct, je l'accepte. » Puis elle dit « Je vois qu'il y a des femmes sur les réseaux qui s'adressent aux hommes aussi. » Donc, on est capable de faire un petit peu plus... la part des choses quand on me connaît. Ensuite de ça, j'ai eu des commentaires Facebook, plus du genre, pourquoi tu t'adresses juste aux femmes, mais tu sais, par rapport à ce que je disais, parce que quand je dis aux femmes, affranchissez-vous de la culpabilité si vous voulez sortir d'une relation toxique, la meilleure façon de se départir des pervers narcissiques, c'est de faire ceci, cela, s'affranchir de la culpabilité. Puis là, les femmes étaient fâchées, disaient, oui, mais pourquoi tu dis pas à place aux hommes de faire ci puis de faire ça? Et ça me faisait réfléchir. Puis j'ai répondu à personne, écoute, je fais ce que je veux. Je veux dire, mon message, c'est ça. Puis si toi, tu veux t'adresser aux hommes, let's go. Vas-y, adresse-toi toi-même aux hommes. Puis ensuite, j'ai eu Steve qui a dit, écoute, pourquoi tu fais pas quelque chose pour les hommes? Pourquoi juste les femmes? J'ai dit, j'ai des affaires que je fais qui sont neutres. Mais effectivement, je ne fais pas de choses spécifiquement pour les hommes. Et tout ça a contribué à ce que je me demande à moi-même, mais pourquoi? Pourquoi, Pascal, c'est devenu comme ça? Et bien sûr, vous allez savoir, c'est pas par l'analyse ou la réflexion, ou du moins pas uniquement que j'en suis venu à ces réponses-là. Je pense que c'est quand même très complexe et que ça part particulièrement de mon enfance. Et pour finalement devenir littéralement une construction, je vais dire, intrinsèque de ce que je suis, qui représente mon énergie, ma personnalité, mes capacités. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance? En fait, tu dois savoir que moi, j'avais pas de père. C'est-à-dire, j'ai connu mon père, j'avais 11 ans, suite à des demandes répétitives que j'avais faites. Mais j'ai essentiellement été élevé par ma mère, ma grand-mère, beaucoup, que je voyais beaucoup. Très, très, très souvent, et mes tantes, parce que ma mère, chez elle, ils étaient 10, 8 filles, 2 gars. Donc, j'étais entouré de tantes, entouré de cousines qui prenaient soin de moi, j'étais le petit préféré de ma grand-mère. Donc, bref, J'ai vraiment grandi dans un milieu de femmes. Ma mère avait un conjoint, mais que je ne considérais pas du tout comme mon père et qui n'était surtout pas un modèle masculin pour moi, parce que c'était littéralement un pervers narcissique qui me terrorisait et qui a littéralement scrappé ma vie et mon enfance. Mais en même temps, je peux dire que lui aussi a fait en partie ce que je suis et ce que je suis en train de t'expliquer par rapport aux femmes, parce que ayant, on va dire, oppressé, contrôlé, violenté ma mère durant toute mon enfance et mon adolescence, il y a eu quelque chose qui s'est développé en moi par rapport à ça. Oui, possiblement une espèce de complexe du sauveur de dire « il faut que je sauve ma mère, il faut que je trouve une solution pour sortir ma mère de là ». Donc, il y a différentes croyances qui se sont créées, différentes recherches, des émotions fondamentales de, oui, je dirais, de sauveur pour la femme, puis de dire « ça n'a pas de bon sens, on ne devrait pas traiter personne comme ça et il faut que ça arrête ». C'est sûr aussi que ça a permis de me développer avec une certaine facilité de connexion avec les femmes, étant adolescent et adulte. J'avais, oui, de très belles relations amicales avec des femmes. Et ça me fait rire parce que c'est le genre de choses que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux de « l'amitié homme-femme, ça n'existe pas. L'amitié homme-femme, c'est pas possible. » Et je trouve ça vraiment ridicule. Je me dis « c'est pas possible si t'es trop animal. » Oui, effectivement, si t'es pas évolué puis que t'es simplement connecté à tes pulsions animales, effectivement, c'est pas très possible. Et là, souvent, ils vont dire « oui, mais il y en a tout le temps un qui désire l'autre ou qui aime l'autre. » Si c'est de l'amour et que tu joues la game de l'amitié, ben tant pis pour toi parce que tu viens de te mettre dans la zone « friend zone » toi-même. Maintenant, même s'il y a un désir ou un certain désir, si tu es capable de faire la part des choses et de dire « oui, cette amie-là, elle est belle » parce que j'en ai des amis qui sont très belles, qui, oui, peuvent me susciter un certain désir, mais dans ma tête à moi, c'est pas ça qui prime. Mon amitié avec elle est beaucoup plus importante que le besoin de coucher avec ou d'avoir des rapprochements ou peu importe. Donc ça, c'est complètement effacé. Je tasse ce désir-là, cette pulsion-là, et je me concentre sur la beauté de l'amitié. Pour moi, c'est possible. Parce que ça n'en reviendrait à dire que si je suis homosexuel, l'amitié homme-homme n'existe pas. Si vous êtes homosexuel femme, ça veut dire que l'amitié femme-femme n'existe pas. Tout ça, pour moi, c'est un... Je trouve ça un petit peu ridicule et, sans vouloir insulter personne, peut-être un petit peu arriéré et primitif comme réflexion. Bref, je ferme la parenthèse. Et tout ça a continué à évoluer, cette facilité de connexion aux femmes-là, et ce qui m'a donné une autre forme de révélation de ce que je pouvais incarner, c'est ma première expérience de constellation familiale. Cette première expérience de constellation familiale-là, je l'ai vécu ou je pensais la vivre en tant que spectateur. À l'époque, les gens payaient un certain montant pour être constellés. Il y a des gens qui payaient un autre montant moins élevé pour être un représentant. Et il y a des gens qui pouvaient venir sur place, je ne me souviens pas si c'était gratuit ou si c'était un montant encore moins cher, pour être tout simplement spectateur. Et moi, j'avais aucune idée de ce que c'était, donc j'ai dit « je vais y aller en tant que spectateur ». Mais finalement, je crois que dès la première constellation ou la deuxième, j'ai été choisi comme représentant et j'ai dit à la personne « oui, mais moi, je ne suis pas représentant, je suis spectateur ». Moi, elle m'a dit « viens, ils t'ont choisi, vas-y ». Et à ma grande surprise, je ne représentais pas une personne de la famille, mais je représentais l'archétype de l'homme bien, ou plutôt de l'homme bon. Elle avait appelé ça comme ça, l'homme bon. Tu représentes l'homme bon qui vient guérir les blessures des femmes qui ont eu particulièrement des blessures dans les relations avec les hommes. Et j'ai trouvé ça drôle. Mais là où c'est devenu encore plus drôle ou peut-être moins drôle, c'est que tout le reste de la constellation familiale, toute la journée, j'ai été rechoisi à de nombreuses reprises. Je pense que de toutes les constellations qu'il y a eu, il y en a juste une dont je n'ai pas été représentant. Et soit je jouais le père d'une constellée, soit je jouais le rôle de l'homme bon. Et on peut dire que le père, habituellement, joue quand même le rôle de protecteur et tout ça, homme bon. Donc, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Et c'est là la première fois que je me suis dit, OK, je dégage un peu cette énergie-là pour les femmes de l'homme bon. Je ne sais pas si c'est ton cas, tu pourrais me le dire en commentaire sur Facebook. Oui, Pascal, on trouve que tu ressembles à ça ou non, pas pantoute. Mais c'est quelque chose qui est remonté dans mes réflexions, dans mes observations conscientes, que c'est possiblement ce que je dégage, c'est-à-dire un genre de, je ne sais pas comment appeler ça, un avatar, un égrégore, un archétype. Peut-être qu'archétype est plus adéquat comme mot, mais je pense qu'il n'y a aucun de ces mots-là vraiment qui l'est, mais de l'homme bon, l'homme qui représente le contraire de tout ce qui a blessé les femmes chez les hommes. Ce qui apporte un genre de guérison ou qui vient apaiser les expériences passées ou, je dirais, donner de l'espoir que ça existe. Bref, ça change en gros les perceptions dans l'esprit des gens. Donc, j'ai fini par accepter ce fait-là ou cette mission-là et de me donner à 100% quand même dans ce que je faisais, peu importe les critiques ou les jugements extérieurs, et de continuer de parler à ces femmes-là. Je me suis demandé si c'était pas négatif de jouer cette espèce de rôle-là, si c'était pas une façon inconsciente de chercher encore à sauver ma mère. Et ensuite, je me suis dit, mais on s'en fout. On s'en fout, tu sais, si c'est ça, puis que ça marche, moi j'ai du plaisir. Particulièrement, je dois vous le dire, justement, quand j'aide les femmes à s'affranchir de la culpabilité, quand j'aide les femmes à devenir souveraines, comme l'atelier que je donne, et que je les vois, oui, refaire leur vie, et ça, je devrais peut-être pas le dire, mais refaire leur vie particulièrement en quittant un conjoint qui est violent, manipulateur, contrôlant et tout ça. Et faut que tu saches là, que dans ma pratique, jamais, au grand jamais, je vais dire à quelqu'un de rester ou de quitter quelqu'un. Ma job, c'est pas ça. Ma job, c'est d'amener la personne à grandir, à se choisir et à vivre la vie qu'elle désire. Mais des fois, je suis vraiment attristé. J'en vois des femmes, dans ma dernière cohorte, Deviens une femme souveraine, il y en avait une qui a même dû abandonner le cours, c'est-à-dire qu'elle n'était pas présente, mais elle regardait les vidéos juste en différé, parce que comme c'était le dimanche, ben son conjoint était derrière la porte à écouter tout ce qu'elle entendait, tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle faisait, puis elle n'était pas à l'aise parce qu'elle dit « je peux pas m'exprimer ». Parce que son problème, il était là. Ça faisait 18 ans qu'elle était avec un homme qui l'empêchait de tout. Elle pouvait même plus avoir des réseaux sociaux et tout ça. C'était quelqu'un d'hyper possessif et jaloux et elle n'était pas heureuse. Mais qu'est-ce qui la maintenait là? C'est la peur et la culpabilité. Et quand tu t'affranchis de la peur et la culpabilité, tu deviens souverain, il n'y a plus rien qui t'arrête. Et ces hommes-là, qui auraient intérêt à travailler sur eux mais qui ne le font pas, ben souvent, ils disparaissent, ils sautent. Les femmes finissent par sacrer le camp. Et je l'ai déjà dit, pour avoir vécu mon enfance avec quelqu'un de violent comme ça, un pervers narcissique, si j'ai un souhait, ce serait que tous les pervers narcissiques soient célibataires sans enfants, de façon à diminuer drastiquement le mal qui est fait sur cette planète-là. Et le diminuer à long terme aussi, puisque si tu n'es pas élevé, éduqué par un pervers narcissique, les chances que tu le deviennes en tant que jeune homme, jeune enfant, garçon, sont pas là. Puis les chances en tant que petite fille que tu sois complètement brisée dans ta volonté et qui font que tu rencontres ensuite de ça des gens comme ça, ben on le diminuerait aussi, voire on l'éliminerait. Donc oui, lorsque je vois des femmes changer, puis j'en ai déjà parlé de certains témoignages que j'ai fait de certaines clientes, je me réjouis quand je vois qu'elles finissent par sortir de ces relations-là et rencontrer quelqu'un qui est adéquat pour elles et qui en prend soin. Parce que pour moi, on doit être des gens souverains, des rois, des reines. On doit se traiter comme des rois et des reines avec respect. Donc, ce qui fait que même si je n'ai pas décidé de moi-même, de m'adresser particulièrement aux femmes. Mon histoire de vie, j'ai réalisé qu'elle me prédestinait à ça. Par une compréhension plus profonde de la femme et une empathie profonde pour les femmes et leur situation difficile. Et là, je ne suis pas en train de dire que les hommes ne souffrent pas, les hommes souffrent aussi. J'ai souffert dans ma vie énormément et depuis longtemps. Maintenant, je vais vraiment beaucoup mieux. Je vais très bien, en fait. Et je ne suis pas en train de dire que les hommes ne souffrent pas et c'est pas que je ne veux pas m'en occuper. Mais c'est comme si mes aptitudes, mon énergie m'amenaient plus particulièrement, parce que j'en fais, j'ai quand même un 5% de clients hommes, et ça fonctionne très bien, et je veux dire, ils sont satisfaits de mes services, mais il reste que la vie a fait que ça va là, et je pense que je suis peut-être très outillé justement pour aider les femmes. Bon, tout ça, c'est peut-être une réflexion un petit peu simpliste. Mais c'est la conclusion auquel moi je suis arrivé du pourquoi. Mais bien sûr, comme je dis, ben, je rejette en rien les hommes, même si j'ai un atelier qui est typiquement réservé aux femmes, qui s'appelle Deviens femme souveraine, qui d'ailleurs va avoir lieu au mois de mai, 3 dimanches au mois de mai, à partir de la deuxième fin de semaine de mai. Je t'invite à aller voir toutes les informations en commentaire, pas en commentaire, en description. Il y a une promotion immense présentement sur cet atelier-là où je te donne la formation Tisser la toile de l'inconscient auquel tu vas avoir accès toute ta vie, ben, jusqu'à temps que ça s'enlève du site, mais tu l'auras certainement quelques années. Qui est littéralement la façon dont je travaille, comment on va chercher les informations au niveau de l'inconscient, comment on les intègre. Et en plus, je donne avec ça une consultation gratuite pour m'assurer que tout l'atelier, toute l'information peut être bien intégrée. On voit à travers ça s'affranchir de la culpabilité, on voit comment trouver des croyances limitantes, les modifier, comment identifier nos mécanismes de défense, y résister. Etc. On voit même le pouvoir de l'intention, ensuite de ça, comment on redirige notre vie. Mais tu peux voir ça dans la description de l'atelier que tu vas trouver le lien en description de l'épisode. Et vraiment, puis tu le sais, si tu m'écoutes, là, je parle souvent de culpabilité et femmes, c'est plate, mais je trouve que ça va ensemble. Qu'est-ce qui me touche particulièrement chez les femmes, c'est leur propension immense à ressentir la culpabilité. Les hommes aussi n'en ressentent, mais beaucoup moins que les femmes. Et je suis encore à la recherche d'études là-dessus, mais je suis pas mal sûr que je me trompe pas. Puis si je me souviens bien, dans la dernière fin de semaine de formation que j'ai eue avec Guillaume Dulude, il l'a mentionné que les femmes ressentent beaucoup plus de culpabilité que les hommes. Sur ce, je prends le temps aussi de dire de participer à ma conférence totalement gratuite, une conférence web que je donne le 28 avril, c'est un dimanche à midi, dont le lien pour t'inscrire et recevoir le lien Zoom est aussi en description de l'épisode. Dans le prochain épisode, je reçois Claudine, qui est médium. Tu me connais, c'est pas mon genre tant que ça de faire venir des médiums. Je l'ai fait un petit peu plus récemment. Je m'ouvre à ça, je monte une curiosité parce que dans mon espace privé, oui, je m'intéresse à ces choses-là, mais comme les résultats mesurables sont importants pour moi, c'est ce qui fait que souvent je les invite pas et que je vais pas dans ça. Les gens sont fascinés par ça, c'est intriguant. C'est vraiment le fun, se faire dire des choses par une médium. Tu fais, mon Dieu, comment ça qu'elle connaît ça, comment ça qu'elle sait ça, puis on est donc toutes énervées. Le problème, c'est que dans la très grande majorité du temps, ça change absolument rien dans ta vie de savoir ça, parce que savoir ne suffit pas. Et pourquoi j'ai décidé de faire venir Claudine? Il y a deux choses par rapport à ça, c'est-à-dire que son angle d'approche n'est pas seulement de dire aux gens les choses, mais elle les pousse vraiment à la responsabilisation. Elle fait de ce message-là un fer de lance. Ses ateliers, je ne les connais pas personnellement, mais je sais qu'elle amène les femmes et les gens en général à bouger en plus de développer leurs dons, mais vraiment prendre leurs responsabilités et changer leur vie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de lui donner une tribune, mais aussi parce que tu peux pas me faire rouler plus les yeux que si tu me parles des affaires qu'on voit pas. Genre les fées, les gnomes de jardin, tout ce monde imaginaire-là, moi, quand il y a des gens ésotériques qui me parlent de ça, les yeux me roulent, puis je me dis, bah, OK, c'est ça. Sauf que elle, dans ses vidéos, on voit des manifestations. C'est-à-dire qu'elle, elle appelle ça des fées, mais on voit littéralement des lumières se promener à l'écran, et j'ai eu beau peser sur pause et dire, coudonc, c'est-tu une poussière? C'est quoi qui fait ça? Je le sais pas, je peux pas l'expliquer. Est-ce que je suis prêt à dire que oui, c'est une fée, comme elle le dit? Non. Mais il reste qu'il y a des choses que j'arrive pas à expliquer. Et une autre chose que je peux pas expliquer, c'est qu'elle a une lampe derrière elle et des fois, elle parle en entrevue, en Zoom ou quelque chose comme ça. Et la lumière devient hyper intense et ardescent, comme si quelqu'un jouait soudainement avec un gradateur. Mais je ne doute pas de Claudine. Je pense pas qu'elle ait un truc caché en dessous de son bureau pour faire ça. Et après avoir vu ça et en avoir parlé avec elle, il m'est arrivé de le vivre avec des petites lumières LED qui étaient pas loin au-dessus de ma tête et où je jasais avec quelqu'un. Et quand je vivais une forte émotion, les lumières LED s'amplifiaient d'intensité. Et j'ai été un peu fasciné. Donc je me demande... Elle a dit que c'est son guide qui y parle. Est-ce que c'est le guide? Est-ce que c'est nous? C'est toujours ma question. Mais bref, je la reçois et ben, elle va nous expliquer un peu tout ça. Donc sur ce, je te remercie énormément encore une fois d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.